sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Liberté. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Le cincle d'eau douce est un oiseau plongeur, mais il ne survivrait pas sans dénicher des larves frigates dans les gravières des torrents. Et tous ces petits insectes qui se nourrissant de matières décomposées épurent l'eau douce. L'évolution biologique des êtres vivants n'est pas seulement une biologie. La biodiversité est d'abord une écologie. Revenons. Nous savons combien toute la théorie moderne de l'évolution repose sur deux principes réactionnaires intangibles. D'une part, la survie des meilleurs, et d'autre part, le grand remplacement des gènes. Si la première proposition se fonde sur un eugénisme inhérent, sa seconde ascendance n'en est pas moins déconcertante. Mais c'est une troisième lapalissade qui interdit d'y réfléchir, car la théorie biologique, inspirée d'un ancestral darwinisme, reste une théorie incritiquable. Il est indéniable que les individus qui survivent possèdent des caractères qui les ont fait survivre. Par conséquent, tous les êtres vivants seraient forcément issus d'une sélection naturelle indiscutable, qui serait le moteur de l'évolution. On nous l'apprend à l'école. Néanmoins, la biodiversité réserve bien des surprises. Pourquoi y a-t-il sur Terre tant d'espèces vivantes? Comment sont-elles apparues? Car le tri des mauvais ne révèle rien de l'émergence des divergences, et le terme confus d'adaptation paraît bien magique pour résumer la prétendue sélection du vivant. En outre, l'idéologie victorienne qui a fait apparaître le capitalisme imprègne complètement cette théorie réactionnaire. Alors, est-ce une réalité naturelle? Ou bien la biologie se fourvoie-t-elle dans les arcanes tendancieuses? En tous les cas, une telle hypothèse mérite bien un petit examen. Car les espèces ne vivent pas seules sur notre petite planète et construisent des réseaux écologiques impénétrables. Le secret du vivant est tout entier contenu dans ces interrelations qui s'échafaudent. Même un papillon agit sur l'écologie des rivières. À n'en pas douter, la force structurante des interactions y est pour quelque chose. Et le sexe semble bien aussi contribuer d'une matière éclatante. Les multiples sexualités animales brassent des différences si importantes qu'elles ont forcément quelque chose à jouer dans l'émergence de ces millions de variations. Alors, pour appréhender le terrain de jeu du vivant et le rôle clandestin des sexualités, il est vraiment temps de faire émerger une théorie alternative. Toute science avive des doutes et des critiques, et lorsque les fadaises de l'extrême droite envahissent un pan entier de la réflexion, cela mérite une attention soutenue. Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et vous allez voir qu'en agitant nos petites cellules grises, un autre monde apparaît. En quittant les hypothèses douteuses de la survie des meilleurs et du grand remplacement des gènes, il est enthousiasmant de découvrir combien l'évolution de la biodiversité est une écologie qui évolue, une écologie évolutive. Et cela change bien des choses.
Adrienne Croator nous interprétait Lorelai's Lullaby. Bienvenue à vous, vous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie, dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, Science en Liberté. Bonjour Thierry.
Bonjour.
À quoi sert la biodiversité sur la planète et que nous enseignent les animaux? Alors aujourd'hui, nous allons essayer de raisonner sur les idées qui ont fabriqué notre monde naturel. Car la nature n'est pas donnée à nos sens et il faut distinguer les choses. Par exemple, tous les jours, on croit voir le soleil se lever. On peut en connaître l'heure et en mesurer la durée. Et pourtant, scientifiquement, le soleil ne se lève pas. C'est juste notre Terre qui tourne.
Oui, bien, bonjour Siona. En fait, en face de la nature, c'est ce qu'on appelle l'obstacle épistémologique. Le réel est différent de ce qu'il paraît être. Et on voit qu'on peut mesurer, on peut calibrer toutes ces apparences trompeuses. On peut mesurer le soleil. Ce n'est pas en utilisant des mesures ou des appareils scientifiques qu'on fait de la science. Faire de la science, c'est au contraire se poser la bonne question.
Oui, beaucoup de gens pensent que si on emploie des appareils sophistiqués ou des mesures mathématiques, on fait un travail scientifique rigoureux qui traduit le réel, mais ce n'est pas suffisant.
Non, si les mesures sont indispensables, encore faut-il savoir quoi mesurer. C'est ici que commence la grande illusion de la science, qui fait souvent se confondre le moyen avec le but de l'analyse. Même les outils les plus sophistiqués, comme le séquençage génétique par exemple, reposent d'abord sur une idée, une théorie. Et si l'on n'interroge pas la solidité scientifique de cette théorie, on en vient à mesurer, par exemple, la platitude supposée de la Terre.
Oui, alors, justement, pour comprendre le monde vivant, il faut à la fois avoir une grande curiosité et une bonne question.
Voilà, c'est indispensable. Et ces questions ont aussi une histoire. L'histoire des idées qu'on se fait du monde dépend d'abord de la force de l'organisation sociale des civilisations. C'est-à-dire que les idées dominantes sont d'abord celles des classes dominantes. Sommairement, on a vu se succéder trois pensées sur le monde. D'abord l'idée d'une nature immuable. À la dimension humaine, le monde semble immuable et se perpétuer sans cesse, de saison en saison. Alors l'Antiquité a inventé l'hypothèse d'une nature qui ne bougeait pas, une nature immuable, qu'on pouvait faire entrer dans des idéologies religieuses, toutes ces idéologies qui ont infesté la planète jusqu'au Moyen-Âge. Le monde était vu comme une création soudaine, hiérarchisée bien sûr, depuis les animaux les plus vulgaires jusqu'à l'humain patriarcal trônant au-dessus. On pouvait cependant en réfuter l'aspect divin sans modifier cette organisation échelonnée. Ça permettait de penser que l'homme se rende maître et possesseur de la nature, comme le disait Descartes.
Précisément, ce fut l'ère de la mise en place des exploitations marchandes. Mais la nature changeait aussi.
Oui, tout ça, ça a duré très longtemps. Mais la seconde idée du monde est venue de la dimension du temps, de la variété des civilisations et surtout du problème de la diversité du vivant. Car si le colonialisme reposait sur la hiérarchie fantasmée des êtres, les révoltes populaires commençaient de plus en plus à en secouer les joues. Alors, la deuxième idée du monde a découvert que les espèces se transformaient. Les conceptions de lumière et la Révolution française ont démontré que les hiérarchies restaient factices, que chacun pouvait revendiquer sa liberté et l'égalité, par exemple, des êtres humains, de tous les êtres humains. Cette idée universaliste a vu émerger l'idée de l'évolution biologique.
Et justement, la nature est incroyablement variée. Même dans les lieux les plus reculés, les tropiques, les océans, les êtres vivants sont là, qui changent et se transforment.
Oui, d'où la question essentielle de la biologie, celle qu'avait posée Lamarck, d'où provient une telle biodiversité? Mais avec la réflexion sur l'égalité et la liberté, on a pu comprendre que les êtres vivants n'existaient qu'en cela qu'ils se transforment. Voilà donc l'origine de la diversité, la transformation. La première transformation est l'ontogénèse, car enfin, voilà des êtres vivants changeant sans cesse. Le bébé tigre, par exemple, avec sa grosse tête de bébé, diffère très vite de ce qu'il va devenir en grandissant. Ça, c'est l'ontogénèse, le parcours individuel. Et ça finit évidemment par une irréversible vieillesse. Mais il existe une autre transformation. Le lion, isolé en Asie, a évolué pour devenir un tigre au cours des temps géologiques. Il s'est donc transformé. C'est ça la phylogénèse, qui entraîne que tous les êtres vivants évoluent vers d'autres formes. Les êtres vivants n'existent qu'en cela qu'ils se transforment.
Cette idée de la transformation des choses a donc aussi été une révolution.
Ça a même été un vrai bouleversement émancipateur pour l'humanité. Mais à l'aide des forces répressives, ça a été facilement récupéré par le monde marchand parce qu'il a intérêt à relancer sans cesse la marchandise et qu'il a pu rattraper l'idée de hiérarchisation à l'aide de ce qu'on a appelé le mérite, un mérite supposé bien sûr. Du coup, le paradigme qui s'est imposé est celui de l'autorité et de la force innovante des meilleurs. L'égalité a donc fait du surplace. Alors, il nous faut ouvrir maintenant une troisième idée du monde. Il faut réintroduire dans notre compréhension à la fois les changements et l'égalité. Mais pas une égalité factice. Non, le fonctionnement des relations entre elles, la construction d'une écologie du monde qui redonne à chacun le rapport à tous les autres. Cette idée neuve, c'est l'émergence des diversités, l'écologie qui évolue, l'écologie évolutive.
Mais pour l'appréhender, cette nouvelle idée du monde, il faut d'abord revenir sur les confusions et les idéologies de la seconde période, celle de l'appréhension de la transformation de la nature.
Oui, car la biodiversité est une incroyable question. Et c'est donc un Français, Pierre-Louis de Maupertuis, qui le premier, vers 1740, a identifié la réponse. La biodiversité provient de la diversification des espèces à travers une histoire naturelle depuis la nuit des temps. Alors, Maupertuis imagine que chaque degré d'erreur aurait fait une nouvelle espèce. Et à force d'écarts répétés serait venue la diversité infinie des animaux que nous voyons aujourd'hui. On s'aperçoit que c'est une intuition géniale. Darwin va réduire cette intuition dans sa fameuse formule de la sélection naturelle.
Mais le premier découvreur de l'évolution...
Oui, c'est un précurseur.
Oui, en fait, c'est Jean-Baptiste Lamarck.
Oui, au crépuscule de la Révolution française, Jean-Baptiste Lamarck réfléchit à la fragilité et surtout à l'instabilité du monde et donc de la biodiversité. Il annonce donc que des espèces très simples sont à l'origine des autres espèces sous l'effet des circonstances. La reproduction est la base du changement et les espèces ont une histoire naturelle. C'est la première fois qu'est énoncée l'évolution biologique. Il fallait cette période de bouleversement du monde pour comprendre que la fixité n'était qu'une apparence. Lamarck invente la biologie, il décrit même un arbre phylétique et élabore même le premier scénario de l'humanisation à partir d'un singe primitif.
Donc l'évolution est l'histoire de la transformation des êtres vivants. Mais cette transformation a-t-elle laissé des traces vraiment visibles de ses actions au cours du temps ?
Oui, parce que l'évolution n'est pas une théorie. C'est un fait biologique découvert par Jean-Baptiste Lamarck. À l'époque, même Cuvier croyait encore au déluge. Les preuves de cette évolution sont partout. Dans l'anatomie, qui montre le changement du membre des vertébrés, par exemple, puisque les mêmes os transformés sont impliqués aussi bien dans l'aile de la chauve-souris que dans la nageoire du dauphin. Mais on voit aussi l'évolution dans la divergence des molécules, ou encore même dans l'embryologie.
Du coup, cette découverte va permettre de mieux cerner l'origine de la biodiversité.
Oui, avec l'évolution se dessine une idée très différente de l'origine du vivant, mais pas encore de son organisation. L'idée fait simplement son chemin, et avec Geoffroy Saint-Hilaire ou encore Layol en Grande-Bretagne. Mais 60 ans plus tard, reprenant l'intuition de Maupertuis, Darwin imagine que les organismes évoluent, triés, à travers une lutte pour la survie, la fameuse « struggle for life ». En fait, pour Darwin, dans la nature, la concurrence entre les individus au sein de la même espèce conduit les meilleurs à mieux survivre et donc à mieux se reproduire. C'est donc cette survie des meilleurs qu'il va nommer la théorie de la sélection naturelle. Cette idée va être adoptée par la biologie parce qu'elle est imprégnée de la concurrence capitaliste et marchande et qu'elle reprend sa place dans la hiérarchisation du monde.
Des idées eugénistes accompagnaient aussi l'invention du racisme redéfini pour justifier l'esclavage selon des critères prétendument scientifiques.
Oui, la biologie n'a pas toujours été très propre. Cette théorie de la sélection naturelle qui affirme que les plus adaptés survivent est dans le ton de l'époque colonialiste puritaine. La biologie est raciste et elle est défendue notamment par le raciste et nationaliste allemand Haeckel, qui soutient non seulement l'inégalité des races, mais qui va aussi soutenir les préludes du nazisme. Ce racisme biologique va être appuyé au début du XXe siècle par un eugénisme officiel, avec la fameuse Society for Eugenics en Angleterre, qui a été fondée par le neveu de Darwin, Galton, et qui est présidée par le fils de Darwin, Leonard Darwin. L'eugénisme affirme simplement, une chose très simple, que ceux qui survivent sont les meilleurs, puisqu'ils survivent, et qu'il faut faire disparaître les autres, en suivant l'hypothèse de la sélection naturelle. Une politique eugéniste s'est donc étendue dans beaucoup de pays, la Suède, les États-Unis, et bien sûr, ça s'est développé industriellement en Allemagne nazie. La France à l'époque fut plus rétive, parce que sa biologie restait encore beaucoup plus lamarckienne que darwinienne.
Mais cette théorie de la survie des meilleurs alimente toutes sortes de critiques. Après le nazisme et dans les années 1920, On a découvert aussi la génétique qui était inconnue de Darwin.
Oui, les gènes changent les corps, en effet, mais cela a pris du temps pour commencer à intégrer la génétique en biologie, car elle paraissait très fixiste. Alors, les biologistes vont peu à peu nettoyer la théorie pour enlever cette histoire de concurrence et de mort et simplifier la théorie de la biologie évolutive. On décrète que l'évolution est d'une part le succès de la reproduction, certains se reproduisent mieux que d'autres, et de cela fait qu'ils laissent leurs fameux bons gènes. L'évolution est donc réduite au succès des meilleurs gènes, ça c'est ce qu'on appelle le néo-darwinisme des années 60.
Ou si l'on préfère, plus on se reproduit, plus on laisse des gènes de soi, et plus l'espèce évolue dans un sens ou dans un autre.
Tout à fait, Siona. L'évolution darwinienne est donc vécue comme une lente amélioration des procédures organiques sous l'effet de la concurrence éliminatoire des individus et des gènes égoïstes. C'est l'idée générale. Alors en appliquant ce darwinisme orthodoxe, Richard Dawkins va affirmer en 1976 que les espèces sont juste des porteurs de gènes qui sont eux éternels et égoïstes. On passe de la sélection des individus à la sélection des gènes, et la théorie moderne de l'évolution devient une sélection naturelle des meilleurs gènes, d'une sorte d'essence archaïque. Ces gènes peuvent être égoïstes ou pas. L'important, c'est d'avoir sauvé à la fois l'idéologie autoritaire de la concurrence et l'eugénisme occulte qui est présent dans la génétique.
Donc la biologie retrouve alors ses vieux démons et peut sans cesse rebâcher qu'il faut intégrer la coopération à la concurrence et que la propagation hiérarchique des gènes est l'essentiel dans le vivant.
On peut prendre ce paradigme néo-darwinien dans n'importe quel sens. On y retrouve toujours que toute la théorie biologique repose sur deux principes réactionnaires, et ce sont deux principes intangibles de la biologie. D'une part, la survie des meilleurs, c'est donc un eugénisme, et d'autre part, le grand remplacement des gènes. Pourtant, nous allons voir que ce que l'on apprend aux enfants est vraiment dépassé, car l'évolution est plutôt une histoire d'amour, et en plus, une histoire queer.
Bon, donc le néo-darwinisme raconte une histoire simple et apparemment indiscutable. L'évolution serait la lente sélection de gènes immortels dans les organismes vivants.
Oui, on continue toujours à affirmer cela, alors que des preuves du contraire sont largement visibles. C'est l'idée générale qui est répétée dans tous les manuels scolaires. L'évolution dépendrait de la diffusion des gènes. Elle se constitue comme une fonction mathématique d'invasion de gènes nouveaux dans une population. Cette définition, malheureusement, pour essai darwinienne, inclut forcément la sélection naturelle des gènes mutés sous l'effet de la concurrence au sein de l'espèce. Alors ça pose quelques problèmes d'idéologie et de réalité. Car si l'évolution résultait de ce que certains laissent plus de gènes que d'autres, alors l'évolution serait juste un grand remplacement des populations.
Est-ce finalement l'extrême droite qui guide ces idées ou est-ce que ces idées qui inspirent les réactionnaires?
Ouais, les deux idées sont enchevêtrées parce que c'est une idéologie autoritaire et essentialiste. L'extrême droite n'a pas d'autres idées pour discerner le monde. Mais regardons ces opinions nauséabondes d'un peu plus près. Il est assez facile de les réfuter très simplement. D'abord en reprenant l'idée de la réussite de certaines erreurs organiques comme l'avait défini Maupertuis, Darwin a élaboré une théorie incritiquable. À l'évidence, ceux qui survivent possèdent des caractères qui les ont fait survivre. Cette tautologie est absolument indiscutable. La théorie est donc indiscutable. Mais remarquons aussitôt que cette lapalissade du tri éliminatoire des mauvais ne raconte rien de l'origine et de l'évolution des variations du vivant. Ça ne fait émerger ni les différences, ni la biodiversité.
Pourtant, partout, on affirme qu'il existe des preuves de la réalité de la sélection naturelle. Récemment, l'exemple de l'anolis vert a montré une modification de la longueur des pattes.
Oui, mais nous sommes loin de la concurrence darwinienne qui aurait façonné une nouvelle espèce. Les anolis restent des anolis. Cet exemple dit de sélection naturelle, d'après les néo-darwinismes, reste donc très imparfait. L'anolis vert a en quelque sorte modifié ses pattes pour mieux grimper. Originaire de la Floride, ce lézard a évolué pour être un peu mieux adapté à la vie arboricole sur l'île où il vivait. Alors ses doigts sont devenus un peu plus longs au fil des générations. Mais il n'y a pas d'anolis en concurrence avec un autre anolis. C'est juste un effet des prédateurs. C'est une drôle de sélection naturelle, et elle est très rapide, en quelques dizaines d'années. En fait, il y a d'autres explications qui sont bien plus crédibles, comme par exemple le polyphénotypisme. En effet, les exemples de darwinisme qui incorporent ensemble à la fois l'exclusion par la concurrence entre eux et l'isolement reproducteur ne sont pas communs du tout, voire inexistants. Si l'on préfère, que ce soit les fameux exemples de la phalène ou de l'anolis, les deux espèces n'ont jamais formé une nouvelle espèce. Or ça, c'est quand même la condition majeure de l'évolution et de l'origine des espèces. Ce polyphénotypisme entraîne que les loups sont gris ou noirs, ou même blancs. Pourtant, les loups blancs, même mieux adaptés à la vie arctique, restent des loups et continuent de se reproduire avec des loups gris, en dépit de cette variation phénotypique. Que ce soit les phalènes, les anolis ou les loups, on n'a pas la formation d'une nouvelle espèce. La sélection naturelle ne marche donc pas sans que la reproduction soit aussi transformée. Mais alors comment est-ce qu'elle se transforme, cette reproduction ?
Se reproduire, c'est évoluer pourtant.
Se reproduire, c'est évoluer, mais ce n'est pas suffisant. Pendant longtemps, aux origines de la planète, se reproduire, c'était se diviser, se couper en deux corps. C'est pas difficile, mais cela n'entraîne pas de variation, ou du moins très peu de variation. C'est juste des erreurs de gènes avec quelques mutations. Se reproduire n'est pas suffisant. Toutes les bactéries savent le faire. Car l'évolution biologique est faite au contraire de multiples petits événements qui ont eu lieu les uns à la suite des autres, mais d'une manière inéluctable, bien qu'aléatoire. Et le plus étrange des épisodes, c'est la sexualité. Car on a bien une interaction incroyable entre deux individus.
Pourtant, tu dis bien, et tu as publié ça scientifiquement, le sexe n'est pas du tout une bonne solution pour diffuser ses gènes.
Oh oui, n'essayez pas le sexe, c'est une très mauvaise idée pour se reproduire. Le sexe est même la pire des manières de se reproduire. Premièrement, on ne peut donner que 50% de ses gènes, les cellules femelles sont divisées, puis résorbées au profit d'un seul ovule. Tout ça, c'est du gaspillage, mais il y a aussi la production des annexes, les coquilles, les mucus, tout ça, ça reste très ruineux en énergie. Sans parler que le mâle fait un gaspillage éhonté des spermatozoïdes. En plus, il y a aussi le risque de maladie qui est très fort, puisque les individus sont obligés de se rapprocher. Enfin, chaque espèce est partagée en deux, mâle et femelle. Il faut que chacun devienne adulte et actif. Il faut reconnaître un partenaire réceptif. Enfin, quand tout cela est fait, il faut que les individus se séduisent, se fassent la cour, fassent monter l'excitation, trouvent un nid douillet. Et pourtant, même en faisant tout ça, on n'est pas du tout sûr de réussir à produire une descendance. Le sexe constitue donc l'un des pires moyens biologiques pour se reproduire, mais aussi la pire des procédures pour diffuser ses fameux propres gènes, puisqu'on en diffuse très peu. Si l'évolution n'était que darwinienne, eh bien il en faudrait des batailles, des excitations extraordinaires et des séductions extravagantes juste pour faire du sexe. Car le sexe passe par une extraordinaire excitation.
Alors, le sexe complique les choses.
Oui, et c'est pas un hasard si Darwin n'en avait pas du tout parlé, car le sexe n'est pas la reproduction. Les fraisiers, les anémones de mer ont appris à avoir des descendants sans aucune sexualité. La nérisse sait très bien se reproduire sans sexualité. Elle se coupe en petits morceaux et ça fait des petits. Et pourtant, les nérisses sont capables de pratiquer aussi le sexe. Au contraire, il y a de nombreux comportements sexuels qui ne sont pas reproducteurs et qui ne peuvent entrer dans le moule de cet oxymore de la reproduction sexuée. Le sexe n'est pas la reproduction et la reproduction n'est pas le sexe. Voilà deux épisodes organiques totalement indépendants.
Et pourtant, 95% des animaux pratiquent le sexe, alors pourquoi ? C'est une vraie énigme.
Oui, et la sexualité peut même se dérouler chez des espèces sans sexe. Par exemple, il n'y a pas de mâle ou de femelle chez les paramécies, et pourtant elles font de la syngamie, de la méiose, c'est-à-dire du sexe. En pratiquant une conjugaison, deux paramécies sans aucun genre font du sexe. Au contraire, deux femelles de lézard Aspidocelis font des bébés ensemble, mais elles, sans fécondation, après un accouplement homosexuel. Le comportement de l'une suffit à faire que l'ovule de l'autre devienne un embryon. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Même des plantes ou des animaux hermaphrodites, qui possèdent pourtant les deux sexes, eh bien, ils s'accouplent parce qu'ils ont besoin de croiser leurs gènes. Bien que l'ombric soit à la fois mâle et femelle, ils pratiquent un accouplement homosexuel pour échanger d'abord du sperme. Ils conservent ensuite ce sperme dans une spermathèque. Et ensuite, il se fécondera lui-même ses propres ovules pour pondre.
C'est donc complètement insensé.
Ça apparaît insensé, mais le sexe a du sens. L'évolution est une histoire naturelle. Et c'est donc dans l'histoire qu'il faut rechercher le sens de la sexualité. La sexualité n'est pas une amélioration des procédures reproductives. Bien au contraire, sexualité et reproduction sont longtemps restés indépendants. En analysant l'histoire de la nature, nous allons découvrir que loin d'une sélection, le sexe est au contraire le résultat d'une longue série d'événements contingents qui vont conduire au consentement, à l'interrelation. La sexualité est donc juste le résultat d'une longue et très ancienne interaction qui restait stable et qui échangeait de l'ADN. Et c'est cela qui fait que l'évolution est vraiment queer. Avec le temps, le sexe est devenu la méthode la plus commune d'échange des gènes et elle s'est petit à petit associée à la reproduction, à travers une cascade de petits événements vers d'autres, le gène, les gonades, le spermatozoïde, l'étreinte sexuelle et même la tromperie et le sentiment amoureux. En cela, l'évolution est d'abord quelque chose de queer, une histoire des sexualités les plus étranges, avec homosexualité, hétérosexualité et tout.
Oui, c'est ta théorie des bulles libertines.
Le sexe débute dans la divergence entre les bactéries et les organismes eucaryotes. Les eucaryotes, ce sont ceux qui ont un noyau cellulaire, et c'est ceux-là qui vont être les protistes, les plantes, les champignons et tous les animaux. Le sexe a donc une histoire évolutive. Les bulles, c'étaient des molécules biologiques complexes qui étaient encapsulées à l'intérieur de petits films lipidiques. Les biologistes sont d'accord sur le fait que le vivant a commencé par la formation de ces bulles de lipides. Alors, dans les tourments volcaniques de la Terre primitive, il y a presque 3 milliards d'années, les bulles vont se diversifier. Il y a celles qui tombent à la surface, elles vont vivre séparées les unes des autres, et elles fabriquent une sorte de paroi solide et protectrice, c'est ce qu'on appelle des bactéries, capables de résister donc à des conditions devenues très sévères.
Et d'autres bulles ne seront pas exposées, au contraire.
Toutes les autres bulles qui ne vont pas éclater vont tomber dans des creux, et elles sont protégées. Mais elles vivent dans ces cas-là ensemble, dans une incroyable promiscuité. Donc elles se mangent entre elles, avalant l'ADN les unes des autres. Mais ces bulles vont grossir en mangeant cet ADN. Elles vont grossir par 10 000 en incorporant de plus en plus d'ADN. Et elles sont aussi obligées évidemment de jeter cet ADN. C'est-à-dire qu'on va petit à petit le transmettre. L'apparition du noyau cellulaire favorise le contrôle de cet ADN surnuméraire. En incorporant de l'ADN, les bulles les plus libertines vont renforcer leur métabolisme. Les bulles en promiscuité, c'est-à-dire celles qui ont échangé le plus d'ADN, donc les bulles les plus libertines, vont devenir des spécialistes de ces échanges génétiques stables. L'époque probable de cette divergence entre les eucaryotes et les bactéries prokaryotes se situe alors dans une fourchette de 3,6 milliards à 2,2 milliards. Probablement que ça s'est passé autour de 2,7 milliards d'années. Mais il y aura encore 4 étapes majeures pour expliquer la sexualité. Cela se poursuit par un jeu de poupées russes qui vont assembler des cellules pour faire des tissus et des organes entre eux. Puis le sexe va devenir lié à un organe, probablement un organe primitivement hermaphrodite, double donc. Et puis enfin, cet organe double va s'atrophier pour former soit un sexe mâle, soit un sexe femelle chez les espèces qu'on appelle gonochoriques. L'interaction sexuelle va alors devenir la vraie relation sexuelle.
Et la sexualité s'est emballée, entraînant l'évolution du vivant.
Oui, après avoir développé la méiose, les bulles archaïques ont divergé de ces protobactéries. Et avec la formation des animaux pluricellulaires, on va voir que le sexe va se spécialiser pendant près de 3 milliards d'années.
Nous avons écouté Scars par Moonsun. Bonjour, vous êtes toujours sur 89.4 Radio Libertaire et dans une émission sans Dieu, sans maître et sans publicité, Science en Liberté. Aujourd'hui, nous cherchons à comprendre le rôle du sexe dans l'évolution. Encore une fois, Thierry, nous connaissions que l'histoire du néo-darwinisme était contestable. Car en fait, nous savons combien toute la théorie moderne de l'évolution repose sur deux principes réactionnaires, d'une part la survie des meilleurs, et d'autre part le grand remplacement des gènes.
Oui, Siana, c'est tout à fait ça. Le darwinisme, c'est d'abord la survie des meilleurs, et d'autre part le grand remplacement des gènes, même si c'est caché derrière une théorie invasive mathématique. Il ne s'agit pas seulement d'un problème d'idéologie qui pèse sur nos vies sociales, il s'agit aussi d'une erreur intellectuelle, car la nature ne fonctionne pas comme ça, et c'est ça qui change beaucoup de choses. Il n'existe aucune survie des meilleurs et aucun grand remplacement des gènes. En comprenant que la nature fonctionne dans une écologie évolutive, nous apprenons non seulement à conserver la nature, mais aussi à tisser des relations nouvelles, à découvrir notre relation au monde et à tous les autres humains.
Et on découvre au contraire que l'évolution est queer, que bien plus que de propager ses gènes, les espèces s'amusent à vivre. Mais pourquoi ?
En quelque sorte, Siana, le sexe multiplie les diversités, car le propre du vivant, c'est de disséminer des diversités. C'est en cela que la nature est queer, ça veut dire que c'est étrange, l'homosexualité y est présente, d'autres éléments y sont présents. Le sexe a un rôle majeur dans l'évolution. Après les accouplements homosexuels des hermaphrodites, par exemple, le sexe se révèle encore labile, au point que certains individus peuvent paraître transsexuels. Chaque mâle du barbier rouge, c'est un poisson méditerranéen, il est entouré d'un harem de femelles plus petites. Et à la mort du mâle, une femelle va grossir et elle va se transformer en mâle, mais en mâle véritable. Chez ce poisson, on devient mâle quand on est le plus vieux.
Oui, ce n'est pas un chromosome sexuel ici, c'est juste l'âge qui fait le mâle.
Oui, c'est à la fois bien différent des gènes, et bien entendu, ça dépend des gènes. Mais c'est ici un facteur social, la densité qui va intervenir pour cette transformation. Si les femelles restent femelles, c'est parce qu'elles sont soumises à des hormones de stress qui vont inhiber leur équilibre hormonal et les garder femelles. La même chose se déroule chez plus de 150 espèces transsexuelles, comme par exemple l'arbre, un poisson nettoyeur, des crevettes, des anémones de mer. Les individus peuvent donc changer de sexe. En outre, l'environnement peut aussi se transformer. Il peut transformer des mâles ou des femelles. On devient mâle ou on devient femelle, par exemple selon l'intensité du soleil. Ça, c'est chez les tortues ou encore chez les crocodiles. On parle alors de déterminisme thermique du sexe, c'est-à-dire combien le sexe biologique est surtout très variable, très labile et pas du tout quelque chose de fixé une fois pour toutes.
Oui, on a vu que même sans chromosome Y, les femelles de certains lézards adoptent un comportement mâle.
Le sexe est en fait une aventure qui dépend de l'environnement, des hormones, des gènes et du comportement des autres. Il existe même un moyen homosexuel de se reproduire, ça s'appelle la parthénogenèse, comme par exemple chez les lézards arc-en-ciel, qui leur permet de s'accoupler entre deux femelles et cela suffira pour faire des bébés toutes seules.
Mais quand on ne transmet aucun gène, il ne devrait rien se passer si l'évolution était la propagation de ses propres gènes. Comment l'évolution peut conserver des comportements aussi inutiles apparemment ? Pourquoi faire du sexe homo ou masturbatoire ?
Et justement, on constate combien l'idée du grand remplacement des gènes, de la diffusion des soi-disant meilleurs gènes avec une invasion, ça ne fonctionne pas, mais alors pas du tout. Non seulement on a pu observer l'existence de rapports homosexuels ponctuels, comme par exemple chez les dauphins, mais on a également constaté la formation de couples stables, sous les mêmes conditions que des couples hétérosexuels. Au fur et à mesure de l'évolution, quantité d'activités sexuelles apparaissent, et à chaque fois que des petits changements affectent la pratique sexuelle, eh bien, il y a des différences évolutives qui se font jour. Car c'est bien la multitude des sexualités qui va être à l'origine de la biodiversité.
Les sexualités jouent un rôle de diversification et non pas de prolifération des gènes.
En effet, les sexualités vont introduire des biodiversités parce que l'objectif n'est pas de proliférer, mais de faire du différent, de mélanger les gènes et les comportements, de s'enrichir les uns des autres. Alors on a vu en effet combien le sexe pouvait être queer et présenter tout un ensemble d'éléments variants. C'est ces variants-là qui vont compter le plus dans la sexualité, beaucoup plus que la diffusion exagérée des gènes. En fait, dans le sexe, on voit que l'exubérance est fréquente. Les serpents jarretières pratiquent des copulations multiples. Les flamants roses font des parades collectives, alors que les parades étaient censées départager des rivaux. En faisant collectivement des actes de séduction, cela va donner évidemment un choix beaucoup plus compliqué. C'est en quelque sorte de l'amour de groupe, quand la fièvre sexuelle les prend. Mais à quoi peuvent-elles servir ces extravagances? Eh bien, si le sexe était la reproduction, on n'en comprendrait aucun sens. Comme le sexe n'est pas la reproduction, mais la séduction, eh bien le sexe va apporter beaucoup plus que ce que l'on croit, et notamment, le sexe est là pour apporter de la variation à tous les niveaux dans l'évolution.
Mais alors, il faut changer ce qu'affirme la théorie biologique.
Oui, il est nécessaire d'envisager au moins une alternative. On nous répète toujours que Darwin avait raison sur tout, mais pourtant il avait commis un grave oubli. Il avait complètement oublié la sexualité. La majorité des espèces pratiquent la sexualité. Alors c'est 12 ans plus tard que Darwin va inventer, sous le même modèle, la sélection sexuelle copiée donc sur la sélection naturelle. Les animaux se sélectionneraient entre eux, harmonieusement, d'une manière traditionnelle, les femelles seraient obéissantes, et celui qui aurait le plus de descendants, eh bien, il aurait diffusé le plus de gènes, il serait donc le meilleur. Toutes ces idées sont imprégnées du patriarcat, et bien sûr ne traduisent rien de réel. Elles ne traduisent que le fantasme de ces hommes-là. Dans la nature, cela n'existe pas.
Et pourtant, la sexualité n'est pas harmonie, elle complique tout. Les mâles et les femelles sont différents et insistent sur leurs différences.
Bien sûr, sans cette différence, évidemment, ça réduirait beaucoup la part possible de la sexualité. Le dimorphisme sexuel, la différence entre les mâles et les femelles, n'est pourtant pas toujours visible. Le guépier mâle, par exemple, ou le martinet noir, sont semblables mâles et femelles. En revanche, le canard, le paradisier, le phoque à capuchon, eux possèdent des couleurs ou des organes bien différents selon qu'on est mâle ou femelle.
Mais à quoi ça sert ?
Eh bien, à quoi ça sert? C'était une grave question. Dans les années 70-80, les chercheurs étudient ces choix sexuels à travers le darwinisme le plus orthodoxe possible. Les mâles suivraient donc la loi de la rivalité entre eux, et les femelles suivraient avec passivité les mâles qui gagnent. Les meilleurs mâles seuls auraient donc des descendants. La prédiction, c'est que l'effort de recherche des partenaires est privilégié par les mâles, alors que les femelles privilégieraient l'investissement parental. Il en découle que les mâles cherchent la quantité, les femelles la qualité des partenaires. Pourtant, on voit que dans la nature, ça ne va pas vraiment coller avec la réalité.
Selon le néo-darwinisme, le sexe servirait juste à sélectionner les bons gènes, des partenaires sexuels possédant et diffusant les meilleurs gènes possibles. Car on se reproduit pour pérenniser ces gènes.
Et oui, c'est toujours l'hypothèse qu'on nous répète partout et qu'on apprend à l'école, nous ne l'oublions pas. Comment seraient sélectionnés les meilleurs? Eh bien, du coup, il y aurait une solution. Pour que les femelles sélectionnent un partenaire fort et dominant, le choix des armes serait le meilleur. Avec le combat des mâles, le gagnant serait forcément le plus fort, celui qui a gagné donc le mieux pourvu, et donc pourvu de bons gènes. Mais ce combat ne risque-t-il pas de désigner plutôt le plus chanceux, voire même le plus salopard? Les combats ne désignent pas le plus apte, mais souvent le plus fourbe. En quoi ça serait un choix pour des bons gènes? Et puis, vite, il devient très évident que les femelles ne sont pas seulement séduites et passives. Elles ont un rôle beaucoup plus important dans l'évolution. On voit vite que ce sont elles qui vont exercer un choix actif du partenaire. Alors du coup, maintenant, l'évolution va dépendre d'abord du choix et des caprices des femelles.
Eh oui ! On dit que les femelles choisissent le meilleur mâle possible pour elles.
Ah ben oui, il faut bien que ce soit le meilleur. Mais très vite, on décrit que les mâles sont aussi collants, qu'ils ont une sexualité oppressive. On rétablit l'idée de choix sexuels bien plus liés à l'idéologie patriarcale des rôles sexuels du puritanisme. Une maman, un papa, tout ça loin de la réalité queer de l'évolution. L'accouplement entraîne des comportements jaloux chez les mâles. Par exemple, le hamster de Sibérie va aider la femelle à accoucher, mais surtout pour être le premier à copuler avec elle, aussitôt après. En fait, la théorie voudrait que les femelles choisissent un mâle qui possède des bons gènes pour assurer la progéniture. Alors, on va avoir deux hypothèses qui sont élaborées par les néo-darwinismes. Premièrement, les mâles disposeraient de couleurs, de formes, qui indiqueraient qu'ils sont pourvus de ces fameux meilleurs gènes. Ou bien, deuxième grande théorie, ils résisteraient mieux aux parasites. Les femelles aimeraient bien les mâles les plus handicapés parce qu'ils auraient montré leur capacité de survie. Pour la première théorie, les néo-darwinistes répètent souvent que les mâles exhibent des caractères pour séduire. Les femelles n'ont donc plus qu'à sélectionner ces caractères qui leur plairont, et en choisissant le plus beau ou le plus fort des mâles, c'est-à-dire le meilleur, grâce à sa force, auraient donc aussi des meilleurs gènes. En choisissant les mâles dont les caractères sont exubérants, les femelles sélectionneraient des partenaires génétiquement supérieurs, aptes à survivre. Par exemple, les lionnes préféreraient les lions bruns, car la crinière des lions témoignerait de la séduction, mais aussi de la force génétique du mâle. C'est ce que les néo-darwinistes appellent la passivité discriminante. Et le monde animal est donc redevenu patriarcal, bien présentable. Mais il faut un subtil jeu d'association de gènes, entre la vigueur, la couleur, la préférence. Rien qui n'apparaisse si facile à faire dans la nature.
Donc cette hypothèse est peu crédible.
Très peu crédible. Deuxième théorie, les mâles posséderaient des indices de leur qualité génétique. Couleur, bois, forme, caractéristiques exagérées. C'est ce qu'on appelle des traits hypertéliques. En choisissant ces mâles aux traits hypertéliques, terriblement désavantagés, les femelles élimineraient les mâles incapables de survivre avec cet orgueilleux handicap. Même les martins-pêcheurs ne sont pourtant pas d'accord, car eux portent les mêmes couleurs que mâles et femelles, de même que les renards, et bien d'autres encore. Il n'y a donc pas de handicap de survie valable. Les perroquets ne sont pas d'accord. Ce n'est pas le mâle qui gagne des couleurs pour séduire, ce qui était un raisonnement téléologique, mais des femelles qui perdent ces couleurs pour survivre. La poule faisane qui couve, par exemple, au vu des prédateurs, se doit d'avoir une tenue camouflée, alors que la femelle de perroquet qui couve à l'abri dans la cavité de son arbre, elle ne craint rien.
Oui, donc c'est plus la femelle qui perd ses couleurs, bien plus que le mâle qui en gagne pour séduire.
Oui. Et cela va donc changer toute la théorie, elle ne tient plus. Et puis, comment un si minuscule signal pourrait-il être net pour ne pas tromper les femelles ? Là encore, la sélection darwinienne ne fonctionne pas. Par exemple, chez les saumons, des petits mâles trichent en fécondant les femelles, alors que ce sont des gros mâles qui les ont attirés. Et l'Attila à croupion jaune, par exemple, ou même les poules, ne vont pas choisir les coqs les plus forts de la troupe.
Les femelles ne peuvent donc pas se baser sur des critères fiables.
Et il y en aurait des critères de richesse matérielle, mais cela n'existe pas chez les animaux. On ne va pas épouser quelqu'un parce qu'il a un château en Espagne. D'ailleurs, pourquoi n'y a-t-il que de minuscules caractères qui soient indicateurs de la qualité du mâle ? Bon, c'est quand même assez aberrant. Comment des gènes de vigueur seraient liés par exemple à des gènes de couleur ou de préférence ? Sachant que ces couleurs ne vont varier que très peu d'un mâle à un autre. En plus, par exemple, quand on regarde les bois d'un cerf adulte, ça ne varie que de quelques millimètres entre deux mâles adultes. Alors comment la femelle fait-elle pour choisir le meilleur ? Les mésanges bleus, par exemple, mâles, vont séduire avec à peine 1% de variation. Et en plus, cette variation n'est pas toujours héritable. Non. La réponse vient plutôt du fait que chaque adulte fait activement sa propagande pour séduire. Les caractères reflètent juste une stratégie de publicité pour chacun, de propagande pour soi-même.
Du coup, les femelles ne préfèrent pas les meilleurs, mais choisissent qui elles peuvent.
Oui, voilà, elles choisissent qui elles peuvent. Et loin de ce que affirmaient les néo-darwinistes, si les femelles réussissaient à choisir les meilleurs, il y aurait de toute façon un très gros problème. Car si les femelles choisissaient le meilleur des mâles, premièrement, elles choisiraient toutes le même mâle, ça réduirait donc toutes les variations génétiques, puisque les descendants seraient tous issus du même. Et puis surtout, au bout de quelques générations, tous les descendants seraient déjà pourvus de ces meilleurs gènes, ce qui réduit évidemment tout l'intérêt d'un choix amoureux.
Donc ça ne peut pas marcher, on ne cherche pas à séduire le bon gène.
Non, ça ne peut pas marcher, il y en a des anomalies sur le sexe. Les infidélités d'abord, on croyait les oiseaux monogames. En fait, entre un tiers et 94% des nichés révèlent un géniteur différent de celui qui a fait le nid. Car pendant que ces messieurs courent le guidou, les dames vont aussi accepter les avances de bien d'autres messieurs. Ainsi, 48% des néonates ont un père extérieur au groupe, même chez le blaireau européen qui vit en famille. De même, en analysant les couvées, on a été obligé de réaliser que de nombreux oiseaux commettent des copulations hors couple. 94% des oiseaux chanteurs ont des nichés mixtes. Il y a donc énormément de copulations qui vont avoir lieu avec d'autres partenaires, et donc le coup du meilleur mâle, ça ne marche pas vraiment.
Mais alors, ces oiseaux n'élèvent pas forcément des petits qui ont leurs gènes.
En effet, l'idée d'un grand remplacement des gènes ne fonctionne pas du tout. Non seulement il ne s'agit jamais de bons gènes, comme on l'a vu, mais on peut dire que beaucoup d'animaux ne sont fidèles que trop brièvement pour que ce soit leur propre gène chez leurs descendants. Alors quels sont les avantages de tromper son partenaire, puisque le risque c'est quand même de perdre les petits. Les guillemots de Troie sont a priori monogames, mais pourtant 10% divorcent. Et dans ceux qui divorcent, 85% de ceux-là vont échouer. Ça veut dire qu'on ne trompe pas son partenaire pour faire mieux que ce qu'on a raté ou pas réussi avec lui, mais tout simplement parce que ça va mal avec lui.
La sexualité n'est donc pas une simple affaire d'harmonie et de pêche au bon gène.
Non. Il existe une divergence d'intérêts entre les mâles et les femelles. Quand le mâle peut multiplier les partenaires pour avoir des centaines de descendants, la femelle ne peut augmenter sa progéniture au-delà d'un certain nombre de ses ovules. En fait, la différence des sexes est plutôt liée à cette divergence d'intérêts, à ce qu'on appelle le conflit sexuel entre les mâles qui multiplient les copulations et les femelles qui, elles, vont faire un choix sélectif du partenaire. Cette divergence d'intérêts semble découler de quelque chose de simple, la différence des gamètes. Le sexe a fait évoluer deux cellules sexuelles. Une cellule fécondante, le spermatozoïde, qui est petite et mobile, et l'autre cellule fécondée, l'ovule, grande, nutritive et pas mobile du tout.
Et oui, cette différence organique conduit donc à une évolution contradictoire entre mâles et femelles.
Alors oui, on a parlé déjà de tout ça depuis pas mal de temps maintenant, et à force de le dire, on finit par penser qu'on l'a déjà très bien expliqué. Bon, apparemment, ça passe pas toujours très bien, mais il n'empêche que le conflit des sexes, c'est bien ce qui va limiter la pérennité de l'espèce. Par exemple, le lion mâle, il va s'emparer d'un territoire en chassant les vieux mâles. Ensuite, il tue un à un tous les petits lionceaux. Alors, c'est pas parce qu'il est méchant qu'il fait ça, mais les lionnes ne vont plus allaiter et vont redevenir fertiles. Le conflit entre les sexes va donc réduire les descendants de la femelle. Au contraire, la montre religieuse, elle, décapite le mâle. Alors forcément, ça va réduire ses aventures sexuelles.
Ah, forcément.
Le lion tue les lionceaux, ça diminue la reproduction des femelles. Donc, loin de chercher à propager les gènes, un sexe va au contraire réduire la reproduction de l'autre. La manifestation du conflit sexuel se traduit donc par différents comportements, depuis le gardiennage monogame jusqu'aux copulations forcées, même au meurtre. Mais tout ça, ça se passe dans un tir à la corde évolutif.
Les femelles savent répliquer à ces brutalités.
Bien sûr, les femelles aussi peuvent changer de partenaire d'ailleurs, ou séduire d'autres mâles. Le plus souvent, la relation doit s'équilibrer dans ce que j'appelle un tir à la corde évolutif, car ça concerne les deux protagonistes. Ainsi, ce tir à la corde change même l'expression des gènes. Prenez par exemple le chat. Le chat mâle va transmettre des gènes qui sont censés favoriser le développement de la vigueur des chatons. Bon, ça c'est en développant évidemment les hormones de croissance. Mais durant sa gestation, la chatte, elle, va réduire l'expression de ses gènes de vigueur, parce que le développement de ses gènes de croissance et le développement des petits va finir par épuiser son corps, elle est vivipare. C'est donc un effet épigénétique qui nous prouve que non seulement le conflit d'intérêts est résolu, mais que l'expression des gènes va changer entre le mâle et la femelle. Le gène ne s'exprime pas en tout ou rien.
Cela contredit les hypothèses de l'invasion des gènes et de la reproduction différentielle qui fondent le néo-darwinisme.
Eh oui, on n'a pas du tout de grand remplacement des gènes. Le conflit n'entraîne pas une sélection en tout ou rien, mais un tir à la corde évolutif entre partenaires. Le tir à la corde évolutif va donc plus ou moins s'équilibrer. Mais ce tir à la corde provoque aussi la formation des organes d'intromission, par exemple l'anatomie des pénis, des vagins. Il influence le développement des étreintes amoureuses, à partir d'une sensibilité cellulaire primitive. Puis les émotions, l'innovation de la méiose réductionnelle, de la syngamie, et puis des gamètes, bref, du sexe, va rendre par contre quelque chose d'étonnant. Ça va rendre les relations obligatoires entre deux êtres vivants, le mâle et la femelle.
Par conséquent, il n'y a aucune recherche de bons gènes.
Ce serait trop simple. La recombinaison génétique, en plus, rebat toutes les cartes du génome. En mélangeant tout le génome, on ne voit pas comment on pourrait diffuser plus facilement des bons gènes et des mauvais. Alors, on peut réfléchir à un autre corpus de théorie. Les descendants sont différents. Comme ils sont différents, ils peuvent tomber sur des milieux différents. Et donc, ils peuvent trouver un monde à leur mesure. L'évolution produit sans cesse du différent. Le mélange, la recombinaison génétique, la diversité des sexualités va contribuer ainsi à la diversité du monde et pas du tout à la propagation de gènes qui seraient améliorés par on ne sait quel hasard.
D'ailleurs, tu disais que cette théorie écologie évolutive donnait la clé de l'origine des espèces.
Oui, parce qu'on n'est plus du tout maintenant dans une sélection divergente due à un eugénisme intrinsèque avec une invasion des gènes. Au contraire, ici apparaît la divergence. Dans chaque variation, la formation d'espèces nouvelles. L'écologie évolutive est donc une théorie de la différence. La réponse est ici. Les espèces existent de se séduire, mais les espèces divergent de ne plus s'aimer. Donc on voit bien, le sexe change tout. Car si la sélection était aveugle, dépendante des événements, le choix d'un partenaire sexuel est lui intentionnel. Avec le sexe, on a la liberté de choix, et c'est ça qui va orienter l'évolution biologique. Car l'évolution découle aussi de nos propres choix. Voilà que la variation intervient, et même les descendants seront tous différents, et différents même de leurs propres parents.
La sélection naturelle disait juste que les vainqueurs survivaient à cause de bons gènes. Là, tu introduis l'idée qu'au contraire, le sexe mélange tout, et qu'il n'y a pas de vainqueur, juste des différences, des variations.
Voilà, c'est ça la clé de la compréhension de ce que c'est que la biodiversité. À la différence d'une sélection naturelle aveugle, la parade amoureuse constitue une sélection intentionnelle, un choix amoureux. Et c'est ce choix amoureux qui va entraîner une évolution différente. On peut rester dans l'espèce ou au fur et à mesure des conditions matérielles s'en éloigner. L'évolution est donc une histoire naturelle. Et elle est faite de ces multiples petites différences qui s'accumulent. Et surtout, c'est ces accumulations et ces différences qui vont diversifier sans cesse le monde.
Je veux du soleil par Au Petit Bonheur. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, pour bousculer notre tête avec science en liberté. Alors Thierry, si l'évolution dépend plus du sexe que de la reproduction, c'est parce que le sexe rebat les cartes du génome. Je suppose alors que les parades sexuelles et toutes les conduites sexuelles peuvent jouer un rôle évolutif.
Oui, s'il y en a bien plus que le problème de la reproduction différentielle, c'est bien entendu la descendance avec modification qu'il faut voir. Toutes les activités sexuelles vont perturber la diffusion des gènes et apporter leur variation. Mais au premier chef, la sexualité exige de séduire, de synchroniser les comportements et surtout d'obtenir un consentement.
Même chez les animaux, tu penses qu'il faut vraiment un consentement entre partenaires ?
Il ne s'agit pas d'une décision réfléchie, mais d'un choix délibéré. Et ce choix est largement lié aux variations d'environnement. C'est surtout le cas chez les plantes. La direction du vent, par exemple, induit la propagation du pollen. Mais chez les animaux, il faut tout pour attiser le désir, et il faut un ensemble de mesures spécifiques. La copulation ne constitue qu'un premier aboutissement qui, une fois admis, va permettre la recombinaison des gènes de tous les protagonistes. Bien plus qu'une diffusion des gènes, le sexe va donc d'abord promouvoir la recombinaison, le mélange, la créolisation en quelque sorte.
Tu reprends un terme là.
Et cette recherche va introduire une forme de créolisation des populations. Chacun va mélanger et ses gènes et ses manières, tout ça pour constituer une nouvelle population sauvage, chacun devenant différente de l'autre. Alors en accumulant des petites différences, les variations vont former peu à peu la biodiversité du monde.
Alors, ta formule, les espèces existent de se séduire et les espèces divergent de ne plus s'aimer, ramène la sexualité sur le devant de l'évolution.
Eh oui, Siona, parce que le sexe est l'interaction essentielle entre les organismes et que toute évolution va dépendre de ces cascades d'interactions qui vont générer ce que l'on appelle l'écologie du monde. Alors, je vais expliquer cela. D'abord, c'est assez compliqué de se séduire. Il faut faire des efforts pour bien réussir à changer un crapaud en un prince charmant, par exemple.
Oui, ce n'est pas gagné, en effet. Comment devient-on séduisant ?
Les individus ne se connaissent pas dans les populations sauvages, mais ils savent apprendre à se reconnaître. Ici intervient ce qu'on appelle la parade amoureuse. Il s'agit pour le mâle de faire sa propre publicité, sa propagande, pour être retenu comme un des partenaires possibles. Pour la femelle, il faut aussi attirer l'attention pour déclencher la parade du mâle. Donc il faut exposer sa réticence et ça peut tout arrêter. Parfois, on peut être reconnu comme séduisant par un partenaire du même sexe, et pour certains individus, cela n'empêchera pas la séduction d'opérer. À ce stade, la plupart des espèces sont donc multisexuelles, et chaque approche enclenche encore une diversité possible. L'évolution est queer.
Mais qu'est-ce qui influence notre reconnaissance des traits caractéristiques à l'espèce ?
À l'origine, le système nerveux s'est développé pour la sexualité, et c'est comme cela que le cerveau a découvert son environnement non sexuel et sexuel. L'éveil de la sensibilité a permis de traiter les informations de l'environnement et même d'apprendre à décider. Mais surtout, le cerveau est un organe sexuel, car il contrôle l'excitation sexuelle, il l'imagine même. Il est fait pour être submergé par l'excitation sexuelle. Le cortex cérébral regroupe tout un ensemble de zones sensibles qui vont interpréter les stimulations de nos organes sensoriels. Et cette excitation sexuelle active toutes sortes de zones cérébrales, comme par exemple l'amygdale, l'hypothalamus, le cortex cingulaire, les ganglions de la base et d'insula, et même le cervelet et le noyau accumbens. Or ce noyau accumbens a un rôle essentiel pour ressentir l'orgasme. Mais tout commence encore plus tôt, parce qu'il faut bien synchroniser d'abord nos comportements avant d'avoir une étreinte sexuelle.
Donc c'est important de se reconnaître, mais comment cela se passe-t-il et comment se développe le désir ?
Eh bien, les êtres vivants sont plus ou moins éloignés les uns des autres, donc il faut sentir d'abord comment se rapprocher. Ici interviennent des molécules chimiques qui peuvent se diffuser d'un endroit à l'autre. Ce sont les phéromones. Les phéromones peuvent être senties sur des centaines de mètres, mais inconsciemment, elles attisent notre désir. Prenons par exemple le cas des urochordés. Alors les urochordés sont des anciennes espèces fixées sur le substrat et dont la vie consiste à filtrer des nutriments d'eau de mer. Rien de très passionnant. Et pourtant, ces animaux ne possèdent que des rudiments de système nerveux. Les acidies vont rester fixées toute leur vie à un endroit, mais elles savent pourtant reconnaître et se faire reconnaître les autres. Le désir naît de l'art de la synchronisation des efforts sexuels. Comment ça ?
Pas facile quand on ne se déplace même pas.
Eh oui, dès l'origine, nos ancêtres urochordés ne bougeaient pas. Ils vivaient attachés sur le sol marin, sauf à l'état larvaire. Alors, pour réussir à se séduire, il fallait envoyer des signaux. D'abord dire « je suis là », ensuite dire « tu me plais », etc. Tout ça pour finir avec une excitation sexuelle suffisante pour que l'éjaculation et l'ovulation se produisent dans l'eau de mer pour permettre une fécondation d'abord à distance. Ensuite, avec le temps, les animaux vont améliorer ce dispositif sexuel. Le flux des phéromones attise donc le désir.
D'accord. Les phéromones attisent le désir. Mais et si le prétendant ne plaît pas ? Tu disais que la synchronisation des sexualités exigeait un minimum de consentement, que la relation était choisie et délibérée. Donc, si le sexe ne se fait pas avec n'importe qui, il faut bien que le désir soit aussi une reconnaissance du partenaire et que quelque chose déclenche le désir.
Alors, prenons la question à la base. Lors de l'approche, on s'oriente sur le flux des phéromones attractives. Mais le sexe est exigeant. Il a besoin de monter une excitation incroyable. Aucune autre fonction physiologique ne demande autant d'attention et surtout d'excitation, ne serait-ce que pour que les organes sexuels se lubrifient ou bien qu'il y ait des érections. Ensuite, pour que le désir monte, il faut reconnaître l'autre, ses qualités apparentes aussi bien sûr. Mais surtout pour que le désir s'enclenche, il faut titiller les circuits du plaisir, commencer à les exciter tout en reconnaissant quelque chose d'unique chez l'autre.
On ne pêche pourtant pas les bons gènes.
Non, c'est pas les bons gènes qui vont nous attirer. Nous allons voir que ce que l'on reconnaît comme attrayant, ce sont plutôt nos différences. De nombreuses espèces pratiquent des échanges buccaux. Alors pourquoi ?
Par exemple, avec le baiser profond, avec la langue, à la française.
Oui, il faut quand même avouer que c'est étonnant de chercher à séduire l'autre en lui mettant notre bouche dans la bouche, la salive dans sa bouche.
Effectivement.
Voilà. Pourtant, il y a beaucoup d'animaux qui font ça. l'échange de salive dans un baiser très profond. Alors, chez beaucoup de vertébrés qui possèdent des glandes à salive, bien sûr. De nombreuses espèces pratiquent ces échanges buccaux. Chez les vertébrés, on retrouve par exemple les chiens, qui parfois préfèrent renifler d'autres endroits plus intimes. Chacun ses goûts, après tout. Mais pourquoi est-ce qu'on suce la bouche? Regardons la grimace du tigre et de beaucoup d'autres animaux. Cela se nomme le phlémen. L'animal va retrousser sa lèvre humide et attrape les odeurs de l'autre en les guidant vers son palais. Car c'est dans ce palais que se situe ce qu'on appelle l'organe voméronasal. C'est à travers cet organe et l'hypothalamus qu'on va décrypter les parfums en suintant les circuits du cerveau. On les appréhende directement à travers la bouche, puis par l'hypothalamus.
Il faut donc ressentir les parfums pour être séduit par le partenaire potentiel. Le baiser ou l'appréciation des odeurs permet de décoder le désir.
Oui et non. On va dire que le désir, oui, parce que c'est pas si simple. Le désir est stimulé par les recherches olfactives, mais il faut savoir qu'on possède un système immunitaire de 200 gènes, ce qui est très peu comparé aux 25 000 gènes ou 35 000 gènes du corps. En retroussant sa lèvre, le tigre essaie de mesurer le complexe majeur d'histocompatibilité, le MHC de la femelle. Cette partie du complexe majeur d'histocompatibilité va être décisif. Notre baiser sur la bouche fait la même chose. On examine le MHC de l'autre en touchant l'appareil voméronasal au fond du palais. Et si le système immunitaire de l'autre nous plaît, cela va activer le désir sexuel et mobiliser les fameux circuits corticaux du plaisir.
Mais ce sont des bons gènes de l'immunité, alors on cherche juste à découvrir si les gènes de l'autre sont les meilleurs disponibles.
Eh bien non, parce que si on faisait ça, on retomberait dans le paradoxe que depuis la nuit des temps que les espèces ont cette pratique, tous les descendants seraient déjà pourvus de bons gènes. Non, si les molécules odorantes du MHC de l'autre vont déclencher notre désir, c'est parce que cette odeur signe sa compatibilité immunitaire. Cela veut dire que ça signe surtout sa différence. On ne cherche pas les meilleurs gènes, mais les différences. Car c'est la différence entre les MHC des deux partenaires qui va provoquer une combinaison nouvelle. Un nouveau MHC potentiel chez les descendants. On aime donc l'autre parce qu'il est différent. Contrairement à l'élimination de prétendus gènes, c'est bien la combinaison des différences qui va déterminer la relation sexuelle.
Et la reconnaissance des partenaires dépend d'un système odoriférant différent?
Oui, même très peu. La proximité génétique des apparentés va dégager une odeur reconnaissable. C'est une odeur familière entre apparentés, donc une odeur facile à identifier. En revanche, la plus grande distance génétique fait émerger une odeur corporelle totalement différente, unique, exotique en quelque sorte. Et ce parfum différent des apparentés va donc provoquer une montée du désir parce que ça va impacter directement le MHC. C'est-à-dire qu'on reconnaît d'abord que ce partenaire n'est pas apparenté, n'est donc pas de notre famille. Puis, en découvrant la différence des MHC, on va embrayer sur un mécanisme de déclenchement du désir sexuel. C'est ainsi, par exemple, que les licarons vont s'identifier par la salive à travers cette odeur corporelle, à la fois pour reconnaître leur groupe d'appartenance et identifier les intrus d'une autre famille, identifier les étrangers ou les amants potentiels.
Cette reconnaissance des MHC différents dans la sélection se retrouve-t-il chez assez d'espèces pour qu'on considère qu'il établit un principe général dans l'art d'aimer?
Alors c'est une bonne question. Il faut bien comprendre que ces odeurs du MHC vont terriblement changer selon les individus. Il va donc falloir les rendre familières tout en sachant qu'elles sont très différentes les unes des autres. Et pour cela, certaines odeurs vont être complémentaires et vont donc plus nous plaire. Dans les travaux sur les bons gènes, on cherchait d'abord ce qui attirait les partenaires. La couleur, l'odeur, la taille des organes. Mais ces recherches ont conduit à découvrir des choses aberrantes. Les partenaires s'accouplaient peut-être en fonction de soi-disant bons gènes, d'après en tout cas les auteurs, mais ils avaient tous tendance à refuser des partenaires apparentés. Alors on a parlé des faits d'inbreeding avoidance, c'est-à-dire d'échappement, d'évitement des apparentés, d'évitement de la consanguinité. De nombreux chercheurs qui vont travailler sur la sexualité ont essayé de comprendre pourquoi les animaux évitaient finalement leurs proches parents pour s'accoupler, alors que ces parents-là devaient avoir des bons gènes, puisqu'ils étaient leurs propres parents. Et c'est ça qui a été mis en évidence. Là, on a vu un mécanisme de reconnaissance, et de refus, qui est basé sur la dissemblance ou sur la ressemblance du système immunitaire impliqué dans la montée du désir et dans la réussite des accouplements. Par exemple, le coq de jungle. Alors, le coq de jungle choisi par les poules, c'est pas du tout un mâle, c'est toujours un mâle non apparenté. Mais c'est donc pas celui qui va posséder les belles couleurs, ou la crête la plus rouge, ou la plus grande force. En fait, au sein du groupe des mâles, les poules vont s'acoquiner avec des mâles bien plus colorés, pourtant, et qui savent bien faire leur parade. Cela donnait une impression positive sur le rôle supposé de bons gènes liés aux couleurs. Mais en fait, c'est quelque chose de bien différent. C'est juste un signal. J'ai les couleurs, ça veut dire que je suis adulte. Donc, je suis réceptif à la sexualité. Alors maintenant, je peux te draguer, je peux te faire la cour. Aussi, les travaux publiés ont beaucoup insisté sur le soi-disant rôle des gènes de vigueur ou de couleur. Mais si ça avait été le cas, on retomberait toujours sur le paradoxe que les géniteurs choisis par les femelles devraient bien avoir ces bons gènes et que ce choix préférentiel ne pourrait conduire qu'à réduire des partenaires potentiels, à entraîner que le choix porte toujours sur les mêmes. Ça serait donc une réduction de la diversité, donc une réduction des futurs choix. On voit bien que c'est aberrant.
Mais alors, on avait plus d'exemples supposés de bons gènes que d'exemples de variations. Du coup, la diversité devrait être diminuée.
En effet. Et le nombre important des publications travaillait toujours à affirmer que les couleurs, les tailles, les organes avaient donc un rôle dans la séduction. Évidemment qu'ils ont un rôle dans la parade. Mais on ne répond pas à la question de la diversité en étudiant cela. Comment des accouplements pouvaient-ils générer de la biodiversité? Et on constatait au contraire que ce refus de la consanguinité, qui passait comme naturel, apparaissait complètement contradictoire avec le choix.
Contradictoire avec les bons gènes.
Ben oui, contradictoire avec les bons gènes, parce qu'il n'y avait aucune raison scientifique que les apparentés n'aient pas ces bons gènes, puisque c'était eux les plus proches descendants de ceux qui en étaient théoriquement déjà les mieux pourvus. Alors, en découvrant l'évitement des apparentés, on a attribué ce refus au risque de consanguinité. Mais la dépression consanguine met plusieurs générations à apparaître et à faire apparaître des tares. Donc ça prend beaucoup plus de temps qu'on croit.
Du coup, comment les partenaires sexuels font-ils pour à la fois trouver un amoureux qui possède les organes adultes attracteurs, qu'il ne soit pas apparenté et qu'il déclenche le désir et les circuits corticaux du plaisir, uniquement grâce au MHC?
Eh bien oui, en fait, c'était ça, la vérité du problème. Comment réussir à réunir toutes ces caractéristiques qui apparaissaient au départ contradictoires avec la théorie des bons gènes? En fait, la reconnaissance du MHC se fait après que les individus aient identifié que l'odeur corporelle était différente d'un apparenté. Donc, du coup, on se considère comme partenaire et non plus comme seulement apparenté. Ensuite, la divergence des MHC est ressentie avec attention. Là, les partenaires vont passer du temps à reconnaître cette différence qui introduit le désir. Il faut passer beaucoup de temps pour se séduire. Découvert chez la procédure Le Code, on a découvert que les contacts physiques se multiplient et que chaque partenaire va étudier avec sagacité les odeurs de l'autre. Alors, la procédure Le Code possède évidemment aussi ce MHC. Et l'importance des MHC qu'on a découvert donc chez cette procédure Le Code a ouvert une piste, parce qu'elle favorisait à la fois la diversité des partenaires et la montée du désir sexuel. Voilà qu'au lieu de se concentrer sur des bons gènes, on comprenait que chacun devenait séduisant pour un autre, tout en accroissant sans cesse la diversité à l'intérieur des espèces. En étudiant cette relation au système immunitaire des partenaires, on a donc révélé le rôle essentiel des MHC chez beaucoup d'espèces, d'abord chez le bruant des prés par exemple, le lézard des souches, et même chez les humains, hein, puisqu'on a découvert ça avec l'histoire des t-shirts. Et puis, en fait, maintenant, on est à peu près 1500 espèces. C'est pas beaucoup, mais on a quand même le lycaon, des oiseaux, des reptiles, et bien entendu, des mammifères, des singes et des humains. Or, il y a peu de chercheurs qui vont comprendre et chercher sur cette différence des MHC, parce que c'est relativement complexe, évidemment, de s'attaquer aux gènes du système immunitaire. Mais en tout cas, voilà qui ouvrait sur une théorie totalement différente. Et cette théorie différente, c'est une théorie de la différence. Car nous préférons tous aimer quelqu'un de différent génétiquement de nous, pas trop dissemblable. Il faut qu'il reste quand même compatible génétiquement, mais suffisamment exotique pour mélanger nos gènes. Évidemment, ça dépend d'un individu à l'autre, et cet exotisme-là peut aller très loin parfois, même avec des espèces différentes.
Donc, loin de chercher les bons gènes, le sexe privilégie la différence des MHC, et c'est cela qui conduit à la diversité des espèces.
Voilà, c'est ça le secret de l'amour.
Ah,
non seulement le choix sexuel va privilégier la différence des MHC, mais ça entraîne à la fois l'évitement de la parenté, puisque ce sont des odeurs qui seraient trop semblables, et une recherche de la différence, puisqu'on cherche à comprendre si ce MHC est bien complémentaire, bien différent de soi. Ça laisse énormément de partenaires potentiels. Le sexe, loin de chercher les meilleurs gènes, va donc d'abord s'éblouir de la différence de l'autre. Je l'aime parce qu'il est différent. Cette différence donne la seule raison crédible pour aimer. On n'aime pas parce qu'on est riche, on n'aime pas parce qu'on est le meilleur, on aime bien tout simplement parce que l'autre il est différent de tous les autres. Cette différence apparente donne la seule raison crédible. Ce n'est pas l'accumulation de cadeaux matériels qui dévoile la relation amoureuse, mais bien le désir de vivre cette différence. Le sexe ouvre donc sur le plaisir et renforce cette relation secrète des MHC. Évidemment, à la longue, ces stimuli olfactifs peuvent aussi finir par lasser. Et donc, du coup, on va tomber sur un partenaire trop familier et ça pourra entraîner la recherche de nouveaux partenaires avec un nouveau MHC encore différent.
Le choix n'est donc pas le choix du plus fort ni du mieux pourvu. Du coup, pas de génisme dans cette évolution.
Eh bien non, puisqu'à chaque fois, on va chercher quelque chose de différent. Et qu'en plus, ce mets différent peut même lasser. On va pouvoir en changer, divorcer. Non seulement cette théorie d'écologie évolutive va donc réfuter tout le génisme du néo-darwinisme, mais surtout, elle le rend inutile. Il ne peut pas y avoir de grand remplacement des gènes, ou des habitudes même, un grand remplacement culinaire, si on voulait. Car la recherche amoureuse, au contraire, a besoin de la différence. C'est ça qui va introduire le plus de variations, et encore plus de variations. Et c'est ça qui va entraîner toute la biodiversité du monde, à travers le mécanisme sexuel de la recombinaison permanente. Vous voyez, par exemple, chez le coq des jungles, on le considérait, la poule et le coq, on les considérait comme des pachas possédant un harem. Eh bien, pas du tout. On voit que les poules vont choisir celles qu'elles veulent dans la compagnie. Elles préfèrent d'abord un mâle non apparenté, un mâle différent des autres, mais plus encore, lorsqu'elles vont comparer ces mâles non apparentés, elles vont choisir celui qui est dissemblable pour leur MHC. Plus leur MHC est dissimilaire du leur, plus ça va leur plaire. Et que ça, c'est comme chez des centaines d'espèces, c'est cet individu différent, exotique, étranger au groupe qu'elles vont préférer, et là, ça va ordonner un mélange des gènes. Le désir sexuel se fonde donc sur la différence et non pas sur le meilleur ou sur le plus fort. Mais sur un partenaire différent, et donc comme il est différent, il est séduisant.
Et cela explique aussi la recherche de partenaires exotiques ou même parfois appartenant à une espèce proche.
Oui, hein, c'est rigolo, mais ça marche pour tout expliquer. Car la théorie d'isolement reproducteur des néo-darwinistes n'est pas complète pour faire une espèce. Par exemple, les hybridations, on les croyait invraisemblables, or elles sont très communes. Le putois d'Europe, par exemple, s'hybride avec le très rare wison d'Europe. Le barbillon blanc, c'est un oiseau, avec le barbillon jaune. Le rockfish, c'est un poisson, connaît des dizaines d'espèces partenaires. Le canard colvert, par exemple, peut s'hybrider avec 125 espèces différentes. Alors, sans parler évidemment des grenouilles, qui se mélangent entre de très nombreuses espèces. Et tous ces épisodes construisent parfois à de nouvelles espèces. C'est ce qu'on appelle la spéciation hybride. Les sexualités multiplient les étreintes, donc inconsidérées, mais c'est ça qui va construire la biodiversité. Voilà que ni le grand remplacement des gènes à travers la théorie invasive des bons gènes, ni l'eugénisme des meilleurs ne peut tenir le coup. La vieille théorie darwinienne doit donc être totalement révisée, puisque ses deux fondements scientifiques sont réfutés, sans parler évidemment des idéologies d'extrême droite qui infestent la biologie, et ces idéologies apparaissent crûment comme des opinions préconçues. 11 espèces de lièvres vont s'hybrider entre eux et ils échangent des gènes de l'Espagne à la Mongolie. Chaque espèce contient les gènes d'autres espèces. On appelle ça des introgressions génétiques. Et ces introgressions génétiques incorporent des gènes d'autres espèces au sein de nous-mêmes. Même chez l'humain, on a ce type-là. Loin de la sélection sexuelle ou de sélection naturelle, on voit donc que l'évolution forme une mosaïque génétique. Et l'évolution, ce qu'on appelle une évolution réticulée, c'est-à-dire une recombinaison permanente des gènes dans des milliers d'essais et d'erreurs où chaque espèce va posséder un peu des gènes des autres.
Mais la multiplication des sexualités trouble la reproduction, voire même, avec le conflit, la réduit drastiquement.
C'est le désir qui va construire la différence et non pas les bons gènes. En cherchant le désir, ça va encourager la sexualité. Et ce plaisir qui va arriver derrière a une vraie fonction évolutive. Car au cours de l'évolution, et à cause de la viviparité surtout, la progéniture s'est en fait drastiquement réduite d'espèce en espèce. 4 millions d'alevins pour une morue, 150 souriceaux pour une souris, mais seulement 4 éléphants dans toute une vie pour une éléphante.
Eh oui.
Pourquoi ? Parce que la place manque dans le ventre des femelles. Alors le plaisir va renforcer la multiplication des copulations. C'est une force évolutive. Au lieu de multiplier les descendants, on va multiplier les copulations. On voit que le sexe n'est donc pas une solution pour mieux se reproduire ou se reproduire plus, mais c'est une solution pour avoir une relation, pour développer des interrelations. Et tout ça, évidemment, ça fait sentir l'écologie qui arrive.
On voit donc que tu mets ici en exergue le rôle évolutif des sexualités, mais aussi des autres interactions du vivant comme dynamique de l'évolution.
Ben oui, parce que si les sexualités apportent tant de variations, tant de différences, elles n'échappent pas au conflit sexuel. Le conflit n'est pas une guerre ouverte. C'est au contraire des divergences d'intérêts entre les mâles et les femelles qui vont ouvrir une dynamique de synchronisation. Et c'est bien la complémentarité des MHC, ce que je nomme un tir à la corde évolutif. Il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant. Chacun essaie un équilibre, car c'est la stabilité des relations qui sera gagnante à la fois pour la survie et pour la biodiversité. Il en résulte donc une très longue évolution, faite de milliers de petits événements plus ou moins stables qui vont s'entremêler. Car rien évidemment n'évolue tout seul. L'évolution se construit de toutes les relations, des alliances, des symbioses, mais aussi des autres espèces. L'établissement de relations est partout ce qui structure le vivant. Ce que j'aime dire, c'est que l'évolution, c'est la preuve qu'on se mêle toujours de la vie des autres. L'évolution, c'est une écologie évolutive.
Oui, tout évolue ensemble, c'est cela l'écologie évolutive.
C'est ça.
Finalement, c'est ce que tu avais développé dans Manifeste pour une écologie évolutive.
Enfin, tout à fait. Oui, j'ai un peu l'impression à chaque fois de re-répéter les choses, même si j'essaie de les répéter un peu différemment, parce que les séductions et les hybridations entraînent des espèces dans un véritable kaléidoscope d'assemblage génétique. Ce recombinaison génétique qui se complexifie au fur et à mesure de l'évolution, dans ce qu'on appelle les buissons biologiques, les buissons évolutifs. Par exemple, l'être humain, Homo sapiens, a incorporé par introgression jusqu'à 6% des gènes de Néandertal ou de l'homme de Denisova, qui sont des cousins d'évolution et qui ne sont pas de notre espèce.
Il est donc inutile de répéter que la coopération aurait un rôle...
Ah ben là, c'était plus que de la coopération, parce que ont dû coopérer finalement de très près pour avoir des descendants.
Tout à fait. Donc, c'est inutile de répéter la coopération aurait un rôle, ou que la concurrence est nécessaire à l'évolution biologique. L'évolution est juste finalement un effet des interactions écologiques.
Eh oui, tout à fait. L'évolution, c'est un effet de la multitude des interactions écologiques qui vont structurer les écosystèmes. Prenons par exemple les grandes catastrophes. Alors la pire des grandes catastrophes évolutives, c'est celle du Permien, il y a 250 millions d'années. On a vu disparaître 96% des espèces, c'est-à-dire que des pans entiers du vivant ont disparu, et seuls quelques rescapés ont pu continuer l'aventure.
Là, une crise géologique et la tectonique des plaques expliquent les disparitions mieux que la sélection naturelle.
Ah bah oui, là bien sûr ce sont des crises liées à la tectonique des plaques, aux crises géologiques, mais la mieux connue de toutes les crises, c'est celle du Crétacé tertiaire. C'est à partir des rescapés de la fameuse comète que toutes les faunes et les flores ont changé. L'écologie des dinosaures. L'écologie des dinosaures était basée sur des fougères arborescentes. Eh bien, elle s'est effondrée avec l'apparition des plantes à fleurs, avec l'apparition des insectes pollinisateurs, des oiseaux, puis des mammifères. Car ce qu'on voit, c'est que faune et flore se sont reconstituées ensemble. C'est toujours toute une écologie qui évolue, une écologie différente de celle des dinosaures. Toutes les espèces nouvelles ont évolué ensemble et vont se structurer en écosystèmes modernes, sous l'effet les uns des autres. L'humain est apparu dans cet écosystème du Pléistocène, avec des tigres, des rhinocéros et même des éléphants.
Et oui, mais comme les espèces sont liées entre elles par des interrelations, finalement chaque disparition fragilise l'ensemble et finit par éteindre une écologie.
C'est comme cela que les dinosaures ont éteint leur propre écologie. Mais plus encore, on a découvert maintenant que des événements non darwiniens ont fait l'évolution. On sait que les mitochondries respiratoires qu'on trouve dans nos cellules, ou encore les chloroplastes chez les plantes qui participent au nourrissage des plantes à chlorophylle, sont en fait de très anciennes bactéries. Des bactéries qui ont pénétré dans les cellules par endosymbiose et qui s'y sont installées, et qui maintenant forment donc une véritable symbiose. Et des épisodes non darwiniens qui ont généré l'évolution, eh bien ils sont très nombreux, très fréquents. Il y a eu les catastrophes, les transferts horizontaux de gènes, ces fameuses endosymbioses dont je viens de parler, les hybridations, les mutualismes, les introgressions, la spéciation sympatrique, et bien sûr, la sexualité. Il n'y a rien de darwinien là-dedans. Même si la sélection est une théorie indiscutable, il est maintenant vraiment nécessaire de faire émerger une alternative, un socle de pensée alterdarwinien qui refuse aussi bien le prétendu remplacement le grand remplacement des gènes envahissants, ou alors l'eugénisme des soi-disant meilleures populations ou des races. Tout cela n'a plus lieu d'être. C'est d'extrême droite et ça ne fait que bouleverser complètement nos manières de penser si on essaye vraiment de réfléchir autrement.
Finalement, tu considères donc que ces nombreuses exceptions au néo-darwinisme obligent à reconsidérer la théorie darwinienne.
Ah oui, parce qu'on n'arrête pas de la replâtrer de tous les côtés et d'essayer de montrer qu'elle est différente de ce qu'elle était, alors qu'il suffit de lire les textes du départ pour bien se rendre compte l'eugénisme de cette théorie et se rendre compte de cette théorie par la suite avec l'arrivée du néo-darwinisme, du grand remplacement des gènes. Il faut donc complètement quitter ces idées stupides, non seulement parce que le néo-darwinisme est assis sur des opinions d'extrême droite qui sont antidéluviennes, mais aussi parce que ces principes sont largement réfutés. N'oublions pas qu'il a fallu réfuter le racisme biologiquement pour faire comprendre que ça n'existe pas. De la même manière qu'il faut faire réfuter maintenant le grand remplacement des gènes, théorie invasive de la génétique, ou encore, bien sûr, la théorie de la sélection naturelle qui n'est que, finalement, l'appréciation d'un eugénisme plus ou moins masqué, plus ou moins caché. Il est donc devenu indispensable d'élaborer une nouvelle synthèse qui incorpore tous les événements évolutifs, tous les autres événements évolutifs qu'on a découverts maintenant. Par exemple, la construction des niches. Ça montre que loin d'être sélectionné par un habitat, les espèces vont construire leur propre univers. L'éléphant, par exemple, en abattant les arbres, construit la savane. Et cette savane sera favorable à des milliers d'autres espèces, depuis des insectes jusqu'à des rongeurs. Il existe aussi des associations qui ont fait évoluer des mutualismes qui sont essentiels en biologie, comme par exemple notre microbiome. En explorant les fleurs, à la recherche de nectar, les insectes, notamment les papillons et les abeilles, et puis quelques diptères et coléoptères, vont se frotter aux étamines. En récoltant involontairement des grains de pollen, ils vont les abandonner ensuite sur une autre fleur, et cette pollinisation, c'est l'un des exemples les plus connus des mutualismes de l'entraide entre les espèces, absolument nécessaire à l'écologie du vivant.
En fait, le vivant n'existe que dans son écologie.
Dans la nature, chaque être vivant est interdépendant des autres, et ça forme des réseaux écologiques, et tout ça c'est un peu comme des précaires châteaux de cartes. Le château de cartes des dinosaures est tombé. L'évolution n'est donc pas une lente amélioration des procédures organiques, mais une cascade d'événements contingents. Les espèces ont donc une histoire, et elles font elles-mêmes cette histoire. Un événement fortuit, comme disait Poincaré, va provoquer une cascade d'événements évolutifs imprévisibles. Un simple événement peut provoquer une cascade évolutive d'événements imprévisibles. C'est cela, l'écologie évolutive. Et évidemment, les sexualités participent de ces cascades en privilégiant la biodiversité de leurs amoureux, mais aussi la biodiversité du monde.
C'était Miranda par Lionel Belasco.
On peut conclure maintenant en comprenant ce que c'est que la sexualité. Le sexe fabrique la biodiversité amoureuse, car chacun a besoin des autres, comme les autres ont besoin de chacun. L'évolution est donc une écologie, faite de relations, dont la sexualité est une des relations fondamentales à la vie. Alors que, depuis les années 1990, la théorie dite synthétique de l'évolution connaît des multiples exceptions à la règle de la sélection naturelle et qui reste une histoire eugéniste complètement discutable en fait, avec des concepts confus, voire racistes. Devant l'ampleur des épisodes non darwiniens, il est grand temps pour les biologistes de faire émerger une nouvelle synthèse, une nouvelle version beaucoup plus crédible de l'évolution qui prenne en compte la cohérence de toute l'écologie. Non seulement le néo-darwinisme repose sur deux principes réactionnaires, l'eugénisme de la survie des meilleurs et le grand remplacement des gènes, mais l'écologie évolutive propose un scénario beaucoup plus crédible de l'évolution. Alors il faut la lire, il faut la travailler, cette écologie évolutive. Aucune interaction ne peut durer si elle ne participe pas à l'équilibre du système vivant. Alors l'évolution est une merveilleuse histoire naturelle et qui essaie toutes les sortes de réconciliations possibles.
Voilà, auditrices, auditeurs intrépides, cette émission se termine. Vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier, et nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi, et nous allons conclure sur une musique qui s'appelle « On vit une époque formidable ».
On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable, on vit formidable plus un. Seul endroit habitable, plus d'oiseaux, plus poissons, plus d'insectes, plus de saisons. Et toujours, des cons. Plus un, seul endroit habitable, on vit une époque formidable, plus un.